France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, la science du changement de camp. Épisode 1, tournée girouette. Que signifie de changer de camp ? Par exemple, voter à gauche quand on est né dans une famille de droite, ou l'inverse, est-ce que c'est changer de camp, étant donné qu'on n'avait pas choisi son camp au départ, qu'on était simplement né dans un certain milieu, que notre camp nous avait été assigné à la naissance ? Autrement dit, changer de camp, est-ce trahir, ou est-ce devenir qui nous sommes réellement ? On peut même aller plus loin. Que signifie d'être loyal et fidèle à quelqu'un quand c'est cette personne qui a changé ? Qui est le traître dans ce cas-là ? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est l'autre ? Et puis d'abord, est-ce qu'on doit garder toute notre vie la même opinion sur tout ? À ce sujet, l'humoriste Philippe Gueluc disait « Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, c'est mon opinion et je n'en démordrai pas. »
Les desserts, c'est barbant.
Et flandise.
Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis.
Nous allons vous raconter des trajectoires de femmes et d'hommes qui ont changé de camp au XXe siècle. De pacifistes, ils sont devenus d'authentiques collaborationnistes, comme Georges Albertini.
Cet effort doit être fait et Marcel Déat s'en préoccupe activement.
Ou alors, à l'inverse, de Vichy, ils sont passés à la résistance, comme Marie-Madeleine Fourcade.
Si j'avais eu peur, je serais partie en courant.
Nous vous raconterons aussi comment un général, parachutiste le plus décoré de l'armée française, est devenu un chantre de l'antimilitarisme, manifestant sur les plateau du Larzac, ce sera l'histoire du général de Bollardière.
Ma vie a été un paradoxe, puisque je...
Et puis nous verrons comment Jacques Soustelle, anthropologue aux vues très libérales et fervent gaulliste, a vu ses convictions totalement bouleversées par la guerre d'Algérie et est devenu l'homme d'une seule cause, celle de l'Algérie française, s'opposant ainsi à son ancien mentor.
Et qu'il n'y a pas de peuple algérien.
Enfin, nous vous expliquerons comment Jacques Chevalier, le maire d'Alger de 1953 à 1958, a fait le chemin inverse et d'Algérie française est devenu un ardent défenseur de l'autodétermination.
Je pense que l'Algérie s'est enfin retrouvée.
La science du changement de camp, une série en 6 épisodes de Mathieu Garrigou-Lagrange. Réalisation Delphine Lemaire, attachée de production Lily Corner.
Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté.
Dans ce premier épisode, nous vous proposons de poser la question du changement de camp en général et de nous attarder sur ceux qui retournent leur veste, virent de bord, changent de cap, pour réfléchir à la question principale que ces girouettes nous posent. Changer de camp, est-ce être ouvert d'esprit ou est-ce être au contraire motivé par ses seuls intérêts ? En politique, en tous les cas, il n'est pas très bien vu de changer d'avis trop souvent. On l'entend par exemple au sujet de Jacques Chirac, bien souvent taxé d'opportunisme, dans ce numéro de la bande à Bono sur France Inter le 19 novembre 2006.
Il y a Chirac la girouette, alors on va entendre, vous allez écouter, non ce n'est pas un meeting d'Olivier Besancenot pour le non à la Constitution européenne. L'année dernière, c'est au contraire la campagne européenne de 1979 de Jacques Chirac. Et vous allez voir quel européen fait Jacques Chirac.
Cette Europe de l'impuissance, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais.
Voilà, alors ça c'est le type qui quand même a organisé le référendum sur la Constitution
Mais voilà,
européenne.
Quand même un homme de gauche.
Étienne Augry, vous êtes historien, vous faites paraître aux éditions Novice le livre qui nous donne l'occasion de cette série. Changer de camp, 14 volte-face au XXe siècle, c'est un livre collectif que vous avez dirigé et dans lequel vous avez rédigé certains chapitres. Les girouettes en politique, on vient de l'entendre, elles prêtent facilement à rire.
Oui, et le cas de Chirac est intéressant, c'est-à-dire que voilà, il y a une certaine fluidité dans son parcours ou une certaine plasticité, et en même temps le Chirac qu'on entend à un moment donné, sans doute on va le mettre à son crédit un certain pragmatisme, c'est-à-dire que vous avez utilisé tout à l'heure des mots assez forts, vous avez parlé de traîtrise, et en fait effectivement ça dépend beaucoup de comment on conçoit la vie politique et comment on conçoit le fait d'atteindre des objectifs politiques. Et donc, forcément, beaucoup d'hommes et de femmes politiques ne gagnent pas à être exposés dans leur évolution dans le temps. Le terme girouette, il a lui-même une longue histoire et effectivement, il est frappant. En tout cas, il permet de montrer un changement soudain d'attitude. Souvent, je pense que les évolutions, elles sont beaucoup plus lentes ou elles sont beaucoup plus complexes à contextualiser. Bien entendu, très peu nombreux sont les personnalités politiques qui peuvent dire qu'elles ont été fidèles jusqu'au bout. Ou alors peut-être que ce sont ces personnalités qui n'arrivent jamais à remplir leurs objectifs.
Et en même temps, on a l'impression qu'en France, on considère que être quelqu'un de sérieux, c'est plutôt ne jamais changer d'avis. En tous les cas, la plupart des hommes et des femmes politiques se présentent de cette façon-là.
Oui, il y a une certaine affirmation des principes qui va empêcher peut-être d'arriver à des accords politiques. C'est-à-dire que le jeu politique est sans doute voilà un équilibre entre ce en quoi on croit et ce qu'on veut atteindre comme but. Et peut-être, et là je pense à la situation politique présente, peut-être que très souvent on a des blocages en France en raison peut-être d'un manque de pragmatisme et de flexibilité. Non pas que les idées et l'idéologie ne doivent pas être importantes, mais peut-être que cette réaffirmation de l'idéologie ou d'une certaine pureté peut conduire à des blocages, c'est certain.
Parmi les hommes politiques du XXe siècle qui ont le plus varié au cours de leur carrière, un nom se détache, c'est celui d'Edgar Faure. Edgar Faure a été plusieurs fois ministre, notamment à l'éducation et aux finances, et deux fois président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, sous la 4e République. Il était radical socialiste, c'est-à-dire membre d'un parti situé au centre de l'échiquier politique. C'était le parti de la petite bourgeoisie qui roule en Peugeot et qui peut se reconnaître comme étant ni de droite ni de gauche. Né en 1908 et mort 80 ans plus tard, Edgar Faure a débuté sa carrière en étant le plus jeune avocat au barreau de Paris, en même temps qu'il écrivait des romans policiers. Et puis il s'est engagé en politique dans des partis centristes. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, il commence par collaborer en tant que fonctionnaire sous le régime de Vichy. Et pourtant, premier changement de camp, voilà qu'il témoigne en 1941, c'est-à-dire en pleine guerre, en faveur de Pierre Mendès France, accusé à tort de désertion, et que l'année suivante, il entre dans la résistance, nouvelle volte-face. Après-guerre, sous la 4e République, Faure occupe des postes ministériels de premier plan et s'allie pour gouverner tantôt avec les socialistes, tantôt avec les radicaux. Mais c'est surtout sous la 5e République que sa flexibilité politique va se manifester de façon spectaculaire. Parce que celui qui a été très critique de Charles de Gaulle va finir par se rallier au général dans les années 60 et même à intégrer le gouvernement de Georges Pompidou sous la présidence gaulliste, un choix qui surprend évidemment bon nombre de ses collègues et aussi pas mal de Français. De plus en plus flexible, Edgar Faure va réaliser un dernier revirement dans les années 1970 en se rapprochant du Parti socialiste de François Mitterrand. Un virage sur l'aile qui explique sans doute la légère ironie dans la voix de Jacques Chancel quand il l'interviewe en 1971, au moment où il lui demande de se situer politiquement parlant.
On dit que votre grande personnalité est souvent insaisissable. Mais au fait, arrivez-vous à la saisir vous-même ?
Je m'en accommode.
C'est facile ?
Pour moi, oui. Aussi pour vous, je crois, Jacques Chancel.
Très facile. Vous avez publié chez Grasset, car vous travaillez beaucoup, un nouveau livre avec ce titre « Ce que je crois ». Or, d'une manière générale, on pense que les hommes politiques ne croient à rien, ne croient jamais.
Je crois que c'est une erreur, j'ai répété « je crois ». Les hommes politiques, j'en ai connu beaucoup, sont beaucoup plus sincères que ne pense le public. Mais souvent, leur sincérité n'est pas saisissable, comme vous le disiez. Mais pour en revenir à votre question, souvent, les hommes politiques sont obligés de louvoyer, d'attendre, de temporiser. de compromettre, de transiger. Tout le monde est obligé de le faire, même le général de Gaulle le faisait. Cela n'enlève rien à sa gloire. Alors le public, quelquefois, se dit qu'ils ne sont pas sincères. Et je crois qu'il est important pour eux de montrer, à la fois par leurs propos et par leurs actes, leur sincérité.
Alors gaulliste, mitterrandien, de droite, de gauche, est-ce que Edgar Faure a mangé à tous les râteliers, pour parler vulgairement, Étienne Augry ?
Alors, il est certain que voilà, il a, on va dire, navigué dans une certaine zone qui finalement correspond, grosso modo, entre le centre, enfin, au centre gauche, au centre droit. Il a été ministre à plusieurs reprises. Là, l'extrait que vous avez diffusé, c'est 71. Il va de nouveau être ministre, toujours dans un gouvernement à l'époque de Pompidou. Et effectivement, ce livre de 1971, il est intéressant parce que on s'attend pas. Il a cette image qui lui colle à la peau comme le sparadrap. Voilà, Edgar Faure, c'est l'homme qui change avec le sens du vent. Et lui, il est parfaitement conscient de cette image qu'il a. Peut-être qu'il en souffre un petit peu et que dans ses postes ministériels, il essaye de donner une certaine direction. Et dans ce livre, précisément, à un moment donné, il revient sur la comparaison qu'on a souvent fait avec Pierre Mendès France, que vous avez évoqué, et lui-même, comme pour dire, Pierre Mendès France, finalement, on dit que c'est un homme droit, avec des principes, mais finalement, il a échoué dans la durée, alors que moi, j'ai autant de principes que lui. Donc en fait, il y a sans doute ce problème d'image et son pragmatisme qui revient à la question qu'on abordait tout à l'heure du fait que c'est pas très bien vu en France, mais en même temps que c'est quelque chose d'indispensable. Et son expérience ministérielle, je pense en particulier quand il a l'éducation en 68-69, où il parvient à faire passer un projet de loi à l'unanimité.
Et une grande réforme de l'université après les contestations de mai 68. Donc on peut être une girouette profondément et en même temps avoir un vrai bilan.
Oui, et je pense que sur cette question-là d'Edgar Faure, il a plutôt été, en tout cas dans cette période où il est ministre du général de Gaulle, déjà à l'agriculture et puis ensuite à l'éducation nationale, finalement, il a un vrai bilan positif. C'est aussi un exemple intéressant de ce que le pragmatisme, qui est malgré tout inspiré, bien sûr, Edgar Faure a des idées et il croyait en certaines choses, et il a réussi sur ce plan-là. Il a échoué à d'autres reprises, bien sûr.
Edgar Faure était donc radical socialiste, ce qui signifie qu'il avait dans son ADN politique, pourrait-on dire, la possibilité de bouger. Aussi considérait-il qu'il n'était pas une girouette, car pour lui, la cohérence tenait au fait qu'il s'adaptait toujours aux événements. D'où la célèbre formule « ça n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent ».
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes très précisément ? Vous n'êtes plus radical dans le sens, du moins où l'entend Jean-Jacques Servan-Schreiber.
J'ai appartenu à la famille radicale et je crois que je n'en suis pas éloigné parce que beaucoup de radicaux me considèrent comme un des leurs. On ne peut pas dire que le radicalisme soit une doctrine. Dans le radicalisme, on a vu s'affronter à plusieurs reprises des positions inverses sur la plupart des grands problèmes. On s'est d'ailleurs moqué des radicaux à ce point de vue, mais il faut en réalité comprendre. Le radicalisme, c'était plutôt un état sociologique, c'était un état de culture, correspondant à une certaine société de petite et moyenne bourgeoisie, d'idées avancées, d'idées progressives, mais pas violentes, et très souvent en rapport avec les milieux d'enseignement. C'est un état d'esprit, plutôt une approche des problèmes, ce n'est pas une doctrine.
Quand Edgar Faure dit que le radicalisme c'est un état d'esprit, on comprend mieux qu'il peut changer de camp, et en même temps ne pas se renier, c'est-à-dire rester fidèle à l'état d'esprit du radicalisme.
En fait, ce parti radical, effectivement, il était placé, il était positionné dans une position qui peut-être permettait le fait de parler à ses voisins. Finalement, tout parti a ce réflexe naturel de négocier, de parler à ses voisins. Donc, quand ses voisins sont à la fois à droite, à gauche, peut-être ça explique aussi ce positionnement-là et le fait qu'on va reprocher plus facilement à ce parti-là un positionnement qui est, somme toute, assez normal.
Nous allons revenir à la politique dans quelques instants, mais si vous me le permettez, voici un petit détour. Un détour qui dit que changer de camp, ça n'est pas toujours une question d'idéologie. Dans la musique, par exemple, le producteur et compositeur DJ Mehdi a d'abord été considéré comme un traître par son entourage quand il a évolué du rap vers la musique électronique. Et pourtant, à son enterrement en 2011 au Père-Lachaise, toutes les tendances de la musique française le pleuraient, preuve qu'on peut parfois changer de camp et réunir à la fois. DJ Mehdi a été cette figure capable de transcender les oppositions et changer de camp a été pour lui un élargissement des horizons, une synthèse des tendances, une réconciliation entre communautés musicales différentes. On peut prendre un autre exemple dans le domaine du sport, où certains joueurs ont passé la barrière qui sépare des clubs ennemis à leurs risques et périls. Souvenez-vous par exemple du départ de Fiorez en 2004, du PSG à l'OM et des supporters qui se sont sentis trahis.
Ah, Fabrice Fiorez, je suis déçu. Déçu de ce qu'il a fait, la manière dont il est parti. C'est pas quelque chose... Je trouve pas ça bien.
Manque de respect vis-à-vis du club et de ses partenaires.
Franchement, ça me fout les boules, déjà. C'est dur pour moi et... Ça doit être dur pour le club aussi.
La déception règne du côté des supporters du PSG. Reste à savoir comment le groupe va désormais réagir.
Étienne Augry, votre regard sur cette archive.
Le cas de Fabrice Fiorez, il est intéressant parce que finalement, le fait de passer du PSG à l'OM ou de l'OM au PSG, c'est très courant. Il y a à peu près une quarantaine de joueurs qui ont fait ça et la plupart du temps, ça se passe bien. Donc, c'est pas une rivalité, c'est une rivalité forte, mais qui n'implique pas forcément un scénario aussi dramatique que celui qu'a proposé Fabrice Fiorez. C'est-à-dire que Fabrice Fiorez, il a avant et après mis de l'huile sur le feu. Dans les semaines ou dans les mois qui ont précédé, il chambrait beaucoup les supporters de l'OM. Il venait de renouveler son contrat à Paris. Personne ne s'attendait à ça et il était plutôt apprécié, comme on l'entend dans cette archive.
Donc quand on est une girouette, la manière compte beaucoup.
Je pense que les circonstances, et c'est le sens du travail qu'on a voulu faire, c'est vraiment les circonstances permettent de comprendre pourquoi on a des mots aussi forts qui sont employés, un sentiment de traîtrise. Hein, l'entraîneur qui est assez connu à l'époque, Vahid Halilhodžić, qui est un ancien joueur très important, il a dit qu'il a été malade physiquement de ce qui s'est passé dans cette situation-là. Et d'ailleurs, dans le cas de Fabrice Fiorez, il n'est pas pour autant bien accepté à l'OM. Et c'est ça qui est important aussi.
D'ailleurs, c'est un peu la fin de sa carrière, finalement, ce transfert.
Symboliquement, c'est un peu la fin de sa carrière. Et ce n'est pas parce qu'on change de camp qu'on est bien accueilli dans l'autre camp. C'est vrai dans le sport, c'est dans la politique, bien sûr. Et on a aussi beaucoup d'autres exemples de sportifs qui ont changé, qui sont passés d'un club à l'autre rivaux, pour qui ça s'est plutôt bien passé.
Et d'autres pour qui ça s'est encore moins bien passé. Je pense à Luis Figo, par exemple.
Voilà, alors Luis Figo, ça s'est très mal passé parce que peut-être aussi, entre Barcelone, qui était son club de départ, même si lui est portugais, bien sûr, mais il était accepté pleinement par Barcelone, et puis le Real Madrid, qui est le club rival, mais aussi ennemi. Et là, on touche à la politique. C'est-à-dire que le Real Madrid, c'est le club de la monarchie, c'est l'ancien club préféré de Franco. Barcelone, c'est quand même le club populaire, c'est le club marqué par le nationalisme catalan aussi. Donc finalement, passer de l'un à l'autre...
C'est rejouer un peu la guerre d'Espagne.
C'est rejouer la guerre d'Espagne, mais à l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'est aussi un débat qui est toujours actuel entre le rapport entre la Catalogne et le pouvoir central à Madrid.
Dans le domaine de la littérature, il est également évidemment possible de varier. Pour faire le parallèle avec le foot, il y a parfois des transferts d'auteurs d'un éditeur à l'autre, qui ne sont pas toujours bien perçus par les lecteurs d'ailleurs, lesquels aiment la stabilité, synonyme d'authenticité et de fidélité. Mais il existe aussi des revirements idéologiques chez les écrivains, ou tout du moins dans la perception que nous avons d'eux. Un exemple. Du temps de son roman « Extension du domaine de la lutte », Michel Houellebecq était considéré comme un pourfendeur de la société capitaliste, du consumérisme, de la marchandisation des relations humaines. La gauche intellectuelle voyait alors en lui un allié dans sa dénonciation de la société néolibérale. Et puis, avec Plateforme, dans les années 2000, Houellebecq a commencé à aborder la question de l'islam et du terrorisme. Ses romans ont semblé dénoncer une crise morale de l'Occident, davantage que de se situer du côté de la critique du capitalisme. Enfin, avec Soumission en 2015, dans lequel l'auteur imagine une France gouvernée par un parti islamique, l'écrivain est finalement classé à la droite de la droite, ce qui fait que son lectorat et ses soutiens ne sont plus tout à fait les mêmes, politiquement parlant. Qu'est-ce qu'on peut dire, Étienne Augry, de l'évolution houellebecquienne, selon vous ?
Ça témoigne aussi, dans le cas de Houellebecq, du fait que des questions qui peut-être nous paraissaient moins importantes au début de son œuvre, en particulier la place de la religion dans notre société, la question du rapport à ces religions et la question du rapport à, et de la place de l'islam dans notre société, ce sont des choses qui ont gagné en importance. Et donc, là aussi, les circonstances changent. On peut dire aussi que les personnalités changent. Houellebecq a sans doute vieilli et peut-être s'est braqué ou s'est concentré sur certains aspects.
Si l'on remonte davantage encore dans le temps, on peut dire que Victor Hugo a lui aussi beaucoup varié, puisqu'il est passé du royalisme au républicanisme, dans les deux cas avec une conviction et une sincérité parfaites. Il se justifiait ainsi de ce changement de camp. Je le cite. « Mauvais éloge d'un homme que de dire que son opinion n'a pas varié depuis 40 ans. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a eu ni expérience de chaque jour, ni réflexion, ni repli de la pensée sur les faits. C'est louer une eau d'être stagnante, un arbre d'être mort. C'est préférer l'huître à l'aigle. Tout est variable, au contraire, dans l'opinion. Rien n'est absolu dans les choses politiques, excepté la moralité intérieure de ces choses. » Finalement, entre la pub Flandise et Victor Hugo, il n'y a que le style qui varie vraiment.
Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis.
Victor Hugo, bien sûr, voilà, il est adolescent ultra-royaliste, il le dit lui-même, et puis devient grande icône républicaine à la fin. Alors, bien sûr, dans une vie telle que la sienne, c'est là aussi compliqué, c'est-à-dire que le 19e siècle, comme le 20e siècle, et c'est aussi ce sur quoi on a voulu se pencher, c'est-à-dire comment les changements politiques, les grands bouleversements politiques, finalement, parfois contraignent à changer de camp. On peut pas aussi facilement juger une situation du passé avec nos préoccupations du présent.
Je voudrais dire que Victor Hugo n'a jamais été considéré comme une girouette, même s'il a beaucoup varié.
Non, et en même temps, son œuvre est traversée par ces questions-là, hein, que ça soit Les Misérables ou même 93 qu'il écrit plutôt à la fin de sa vie. On voit que effectivement, les personnages incarnent ces dilemmes auxquels il a dû faire face finalement dans son parcours.
Revenons à la politique, ce territoire où les girouettes, ces grands oiseaux migrateurs, sont les plus visibles. Prenons le cas par exemple de François Mitterrand. Issu d'une famille bourgeoise et catholique, il commence par militer dans sa jeunesse à l'extrême droite, notamment en tant que membre des Croix de Feu, une ligue nationaliste française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaille d'abord pour le régime de Vichy avant de rejoindre la Résistance en 1943. Ce premier changement de camp, bien qu'il soit motivé par les circonstances historiques, révèle déjà une certaine capacité d'adaptation aux situations et un pragmatisme qui marqueront sa carrière. Après la guerre, Mitterrand intègre plusieurs gouvernements sous la 4e République. Il est plusieurs fois ministre et se présente comme un républicain modéré. En 1965, il se présente face à De Gaulle en tant que candidat unique de la gauche. Et 6 ans plus tard, en 1971, il prend la tête du Parti Socialiste au Congrès d'Épinay avec un objectif clair, unifier la gauche pour accéder au pouvoir. Pour cela, il n'hésite pas à signer un programme commun avec le Parti communiste français en 1972, alliance qui lui permettra de renforcer sa base électorale. Au final, voilà un homme qui a parcouru en quelques décennies presque tout le spectre de la politique française.
Alors François Mitterrand, c'est aussi un cas très intéressant. Quand on montre au lecteur la liste des personnages qu'on a traités dans l'ouvrage Changer de camp, souvent c'est un nom qui revient, François Mitterrand, et effectivement il a un parcours et on pourrait même aller un peu plus loin et dire que 83, il y a aussi ce fameux tournant de la rigueur où l'homme qui incarne la rupture avec le capitalisme, tel qu'il le dit en 71, doit renoncer à tout ça et finalement... Certains historiens disent que c'est lui qui facilite la généralisation du capitalisme en France avec ce fameux tournant de la rigueur.
En toute logique, on trouve également des changements de camp chez les intellectuels.
Nicolas Sarkozy recrute à gauche. Le philosophe André Glucksmann soutiendra le candidat de l'UMP à la présidentielle.
Parmi les intellectuels qui ont voyagé de la gauche vers la droite, on peut prendre l'exemple du philosophe André Glucksmann, passé du maoïsme à l'anticommunisme, archives 18 juillet 1975.
La cuisinière et le mangeur d'hommes, son livre Courageux, publié aux éditions du Seuil, agite en ce moment la gauche française. Et il y a de quoi. André Glucksmann, vous lui reprochez d'avoir un Staline sur la langue. Vous, quand on vous parle de Soyouz ou de détente, vous pensez surtout aux camps et aux camisoles chimiques destinées aux contestataires.
Oui, enfin, je leur souhaite de revenir vite sur Terre, mais je sais ce qu'ils y retrouveront, à savoir la pollution, les camps...
l'oppression.
Quelle est la traduction de la cuisinière et le mangeur d'hommes ?
La cuisinière, c'est celle qui, selon les lignes, devait apprendre à diriger l'État. Pour l'instant, elle ne dirige rien du tout, même pas ses cuisines, puisque c'est la police qui fourre son nez dans ses cuisines. Quant au mangeur d'hommes, c'est l'État, si vous voulez, mais l'État tel qu'il existe en nous quand nous sommes gardiens de prison, quand nous sommes gardiens de camp, quand nous sommes policiers, ou quand nous expliquons que, finalement, la police, quand elle règne, c'est quand même le socialisme.
Étienne Augry, on peut imaginer que les changements de camp chez les intellectuels sont plus chimiquement purs, dans le sens où ils ne visent pas à récolter des voix et à coller à l'opinion.
Oui, et peut-être ça rejoint aussi la position de l'écrivain, et souvent ces intellectuels sont des écrivains aussi, c'est-à-dire que ils ne sont pas tenus aux mêmes exigences que les membres d'un parti politique ou des élus qui doivent respecter la discipline de parti, et peut-être que dans ce cas-là, ça paraît plus surprenant, mais dans le cas d'intellectuels qui mettent en avant effectivement l'individu, et c'est un peu ce que fait Glucksmann ici, voilà, et on a aussi un parcours très surprenant, hein. Avant même d'être maoïste, il était proche du parti communiste dont il a été exclu, et puis il a soutenu effectivement Nicolas Sarkozy, mais il a aussi soutenu Marie-France Garraud en 80, donc il a des positionnements surprenants. Bon, peut-être qu'il y a une part de provocation aussi, hein, dans la personnalité d'André Glucksmann ici, et il y a en tout cas une grande liberté.
Pointer les revirements plus ou moins opportunistes chez les hommes politiques n'a rien de nouveau. Au début du 19e, c'était même devenu un jeu, avec la publication d'un dictionnaire des girouettes. Cet ouvrage compilait discours, proclamations, chansons et extraits de textes produits par des personnalités, lesquels mettaient en lumière leur grande capacité d'adaptation aux différents régimes qui s'étaient succédés après la Révolution française.
Dans le dictionnaire des girouettes, qui paraît en 1815, publié par l'éditeur Emery, on a droit à une girouette, par régime servi. Et, par conséquent, vous avez le nom de tous les hommes politiques, de tous les journalistes, j'énumère, des généraux, des sénateurs, des chansonniers, des évêques, des préfets, des ministres. Et donc, autant de régimes ils ont servi, autant ils ont de girouettes.
Étienne Augry, ce dictionnaire des girouettes, alors c'est une tradition, vous en avez amené un aujourd'hui qui date de 1993, mais ça commence donc au 19e siècle. À quoi ça servait ?
Ça sert peut-être à clarifier, ou en tout cas à reconstituer des itinéraires et à identifier des cibles potentielles, voilà, pour peut-être pour les humoristes ou pour ceux qui ont envie de se moquer. En même temps, dans cette liste de 1815, votre archive évoque un certain nombre de personnages qui relèvent pas directement du personnel politique ou qui sont plutôt dans l'administration. Donc là aussi, ça pose la question de la loyauté du fonctionnaire dans un cadre différent. Et en 1815, la première version, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait 1200, à peu près 1200 personnes qui étaient recensées. Dans la dernière édition connue, celle de 93, on a beaucoup moins de personnes, on a à peu près 10 fois moins, et on est dans et il y a une matière très riche, et là de nouveau on met un nombre de drapeaux ou de girouettes qui correspond
au nombre de fois on a changé de camp.
Même si je pense que chaque dictionnaire au moment où il a été fait avait des critères différents, effectivement en relisant chacune de ces versions on se rend compte que pour certains on n'aurait pas dit que c'est girouette, c'est peut-être une évolution d'une position politique sur une question. On parlait tout à l'heure de Jacques Chirac par rapport à l'Europe, c'est pas la même chose que de changer de camp en termes partisans, hein. Et donc, on a des définitions qui sont bien entendu variables, et chaque époque va interroger, va poser ces questions-là, et ça serait intéressant, on aurait presque pu en faire un annuaire, finalement, ce dictionnaire des girouettes, et pourquoi pas en refaire un aujourd'hui, après les changements de camp de ces 10 dernières années, disons.
Pour quelles raisons change-t-on de camp ? Certains franchissent le Rubicon pour sauver leur peau, leur poste ou leurs avantages, mais la plupart du temps, changer de camp se fait par conviction, par révolution idéologique, et il reste possible de tracer des continuités profondes dans ces parcours accidentés, par-delà les volte-face. Mais quelle continuité trouver chez un homme qui, comme Georges Albertini, fait le trajet qui le conduit de pacifiste de gauche à collaborationniste vichiste ? Comment expliquer ce glissement, qui est aussi un terrible égarement ? C'est ce que nous allons découvrir au cours de l'épisode qui suit.